Pour commencer cette émission, je vous propose de vous interroger un instant sur la lumière. C'est quoi la lumière? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est quelque chose d'immatériel, d'impalpable? Est-ce que c'est un objet? Est-ce qu'on peut l'attraper avec nos mains comme on attraperait une mouche qui passe? Ou est-ce qu'au contraire, la lumière et la matière n'interagissent pas vraiment et donc il est impossible de la saisir en vol? Eh bien, figurez-vous qu'il existe quelques indices autour de nous qui nous permettent, à vous comme à moi, de répondre à ces questions. Quelques indices dont nous sommes toutes et tous conscients. En voici déjà un. Imaginez-vous un instant allongé sur une belle plage en été. Il est midi, vous êtes en maillot de bain, votre peau chauffe. En réalité, vous êtes en train de cramer au soleil. Et c'est ça, le premier indice, vous cramez. En voici un autre. Où que vous soyez, là, maintenant, pour peu que vos yeux fonctionnent, vous devriez être capable de voir des arbres, peut-être des animaux, des murs, le sol sous vos pieds, des étoiles ou des nuages. Ces deux indices, qu'on brûle au soleil et qu'on voit des objets, prouvent que la matière et la lumière ne s'ignorent pas l'un l'autre, que la matière et la lumière interagissent. Ce n'est donc pas votre main, uniquement, qui est capable d'attraper la lumière, c'est tout votre corps. Il l'absorbe, la transforme et la rend parfois. Cette interaction entre matière et lumière a un nombre incalculable de conséquences. Dans l'espace, elle permet à des atomes de se coller entre eux pour former des molécules. Sur Terre, elle permet à la surface de notre monde d'être chaude, car la lumière que le Soleil nous envoie se transforme en chaleur lorsqu'elle pénètre l'air et les sols. De cette compréhension est née une science, l'optique, qui nous a permis, avec le temps, de créer des télescopes, des fibres optiques, des microscopes pour explorer le monde et nos corps. Alors c'est pour parler de lumière, de matière et de nos corps que j'ai l'honneur d'avoir avec moi trois invités lumineux.
Ludovic Julien, donc je suis chimiste, je suis professeur à Sorbonne Université à l'École Normale Supérieure. Et je suis un perturbateur en utilisant la lumière comme agent de perturbation.
Bonjour, je suis Alexandra Fragola, je suis professeure à l'Université Paris-Saclay et je fais ma recherche à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Et moi j'utilise la lumière dans des microscopes optiques pour faire de l'imagerie d'échantillons biologiques.
Bonjour, moi je suis Jean-Michel Autoniel, je suis sculpteur, j'utilise le verre entre autres et j'ai une approche plutôt poétique du monde. La sensibilité des matières et la beauté des matériaux offrent au spectateur un monde un peu singulier. Voilà. Et mon œuvre la plus connue, c'est la bouche de métro au Louvre Palais-Royal. Et chaque jour, quand on sort de terre, elle met en scène ce passage de l'ombre à la lumière.
Jean-Michel Autoniel, Alexandra Fragola, Ludovic Julien, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct avec le public du studio 181 de la Maison de la Radio. Et nous allons parler de lumière et matière.
Big Bang, Christophe Galfard.
Jean-Michel Autoniel, j'avais envie de commencer avec vous pour vous demander, vous utilisez pas mal le verre, et effectivement, en regardant vos œuvres et en empruntant parfois cette bouche de métro au Palais-Royal à Paris, quel est votre rapport avec la lumière, la matière, tout ça? Ça vous inspire quelque chose de particulier?
C'est-à-dire que la lumière a toujours fait partie de mon travail, soit elle traverse les matériaux, comme vous dites, le verre, soit elle en émane, par exemple la feuille d'or ou le soufre que j'ai beaucoup utilisé, qui sont des matières dont la lumière émane. Donc c'est une chose pour moi importante, oui, cette notion de lumière, parce que la lumière, pour moi, elle a aussi un rapport... je pourrais dire presque singulier, dans le sens où elle parle d'émerveillement, de beauté, elle transforme les matériaux. Et aussi, elle apporte un sens profond, parce que toutes ces notions-là sont des notions qui sont importantes aujourd'hui, cette notion de beauté, d'émerveillement, de réenchantement. Et ce rapport peut-être peut donner à la lumière, dans mon travail, un côté plutôt politique, alors que la matière serait plutôt poétique. Voilà.
Il y a quelque chose d'amusant, je trouve, dans le rapprochement qu'on peut faire entre art et science de manière complètement générale, à savoir que dans les deux disciplines, l'idée, il me semble, hein, en tout cas c'est comme ça que je l'appréhende moi, l'idée est de révéler quelque chose par rapport au réel, que ce soit à travers des équations parfois pour la science ou par une émotion peut-être en art, mais de faire voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Est-ce que vous avez un petit peu cette recherche d'exprimer grâce à ces matériaux et cette lumière quelque chose que vous ressentez dans le monde ?
Moi, je suis plutôt un artiste qui optimiste, donc qui va plutôt essayer de transmettre cette idée du merveilleux et de l'émerveillement. Donc, c'est vrai que la lumière participe de ça, bien que les sculptures puissent exister aussi dans le noir. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut toucher, on peut avoir un rapport sensuel à la matière sans forcément avoir besoin de la lumière. Mais la lumière, pour moi, est aussi une matière. C'est-à-dire que la lumière, quand, par exemple, quand je fais des vitraux, elle est captée à travers le verre. Et en fin de compte, c'est plutôt la lumière qu'on regarde plutôt que l'œuvre. Alors que certaines œuvres, on regarde plutôt les œuvres et la lumière vient les transcender. Mais parfois, la matière peut être la lumière.
Ludovic Julien, je voulais que vous nous éclairiez un petit peu, hein, vu qu'on parle de lumière, on va pouvoir filer la métaphore des verbes tout du long, sur l'interaction lumière-matière. Est-ce que le fait qu'on voit le monde autour de nous montre bien qu'il y a une interaction? Est-ce que cette interaction est facile? Est-ce que la matière absorbe la lumière? Est-ce qu'il y a différentes façons d'interagir avec la lumière?
Alors, la lumière, effectivement, peut être absorbée. C'est une possibilité de destin pour la lumière. Elle peut être aussi réfléchie, simplement, c'est-à-dire ne pas interagir de manière, on va dire, presque destructive au niveau des objets. En ce qui me concerne, donc, comme je l'ai dit, j'ai plutôt tendance à utiliser la lumière qui interagit fortement avec mon monde, c'est-à-dire le monde des molécules. Et faire que finalement, alors que la molécule est bien tranquille, sans lumière, elle subit un gros choc, en fait, quand elle se met à absorber de la lumière. Et à ce moment-là, a des destins qui sont des destins nouveaux. Et donc, l'idée est justement de mettre en œuvre ces destins nouveaux. Alors, ça n'est pas évident, en fait, d'avoir cette absorption de lumière. On a souvent l'impression, en fait, que, justement, la lumière est absorbée facilement, par exemple, parce que nous ne sommes pas transparents. Mais en fait, on est assez transparent. Et le fait qu'on se voit a, entre autres, à voir avec d'autres propriétés, à savoir l'hétérogénéité de notre structure. Donc, il y a plein de choses très, très intéressantes qui sont liées à cela.
L'hétérogénéité, vous voulez dire que si, par exemple, on était fait que d'une seule forme de matière, de molécule, on serait plus ou moins transparent?
Alors, de fait, vous êtes très aqueux, c'est-à-dire que vous êtes constitué massivement d'eau. Si je vous remplaçais par un verre d'eau, vous seriez transparent, effectivement. Mais de fait, vous êtes plus que quelques dizaines de kilogrammes d'eau.
Je suis de l'eau sale. En gros.
Effectivement, il y a des modèles comme ça qu'on appelle des modèles de poubelles moléculaires.
Merci beaucoup.
Ce côté très désorganisé, en l'occurrence de la matière, et qui fait que cette désorganisation va créer votre visibilité, d'une certaine manière.
Si on imagine le mouvement d'un petit photon, disons, une particule de lumière à l'intérieur du corps humain, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la matière elle-même étant quand même relativement vide, la lumière irait plus ou moins tout droit jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelque chose qui aurait la bonne énergie.
Alors, elle ne va pas aller tout droit. Disons qu'elle va avoir une trajectoire assez compliquée. Et un des problèmes dont Alexandra parlera peut-être, c'est de maîtriser la trajectoire de la lumière dans un échantillon complexe. Donc, du coup, effectivement, elle a une trajectoire très compliquée. Et ce que j'espère, c'est qu'à un moment, une petite molécule va l'absorber.
Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle lui fasse?
Alors, il y a plein de beaux destins pour une fois que l'absorption a eu lieu. Si je prends la photosynthèse, par exemple, qui est cette idée que, justement, ce photon, cette particule lumineuse, va réussir à être absorbée au niveau d'une feuille, eh bien, c'est la capacité de faire des choses inouïes du point de vue de la chimie, par cette capacité d'obtenir des molécules complexes.
D'utiliser l'énergie de la lumière et de la réorienter d'une manière assez précise.
Et d'une manière magique. On utilise de la lumière rouge pour exciter de manière très complexe des molécules qui n'absorbent pas elles-mêmes la lumière rouge et on arrive à produire du sucre.
Ça, c'est bien.
Oui.
C'est bon, le sucre.
C'est
et on
utile.
En a tous besoin.
C'est utile.
D'ailleurs, c'est pour ça que les plantes sont vertes, n'est-ce pas? Parce que le rouge est absorbé, mais pas le vert.
Exactement. Alors, les plantes, elles absorbent pratiquement tout le visible, mais effectivement, elles absorbent plus dans le rouge,
dans le rouge,
en l'occurrence, et puis un petit peu dans l'ultraviolet, ce qui donne cette teinte verte.
Qui est très jolie autour de nous. Alexandra Fragola, Vous, je sais que vous travaillez tous les deux sur, sur l'aspect, l'interaction avec le vivant. Est-ce que, pourquoi utiliser de la lumière pour appréhender le corps humain, alors que quand même il y a peut-être d'autres moyens comme les échographies dont on a tous entendu parler qui nous permettent de voir à l'intérieur du corps? Quel avantage aurait l'utilisation de la lumière pour explorer un paquet d'eau sale comme moi?
Alors, l'avantage, alors là, je vais utiliser un mot, je ne sais pas, vous me direz s'il est trop technique, mais l'avantage de la lumière, c'est la longueur d'onde qui est plus petite qu'effectivement les ondes sonores qu'on utilise en échographie. Et donc, quand on fait une image, la plus petite chose qu'on peut voir dans une image quand on utilise de la lumière, c'est lié à la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est petite, et plus on peut voir des choses petites. Donc, l'intérêt de faire de l'imagerie optique, c'est de voir des choses plus petites qu'en échographie.
On peut peut-être préciser, donner une image pour la longueur d'onde. Si vous imaginez une vague à la surface de l'océan, ou sur un lac tout plat, il y a une vague qui va passer, bien la distance entre deux crêtes successives, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de l'onde, de la vague. Et la lumière qui nous entoure, qui n'est pas une vague faite d'eau, mais d'électromagnétisme, disons, c'est pareil, c'est une petite vague avec une distance entre les crêtes. Et ce que vous êtes en train de dire, Alexandra Fragola, c'est que cette distance entre les crêtes, on peut la faire varier, peut-être, en utilisant des lumières différentes. Et plus la distance est petite, plus on peut voir des détails fins.
C'est ça. C'est-à-dire que la longueur d'onde du rouge, par exemple, est plus grande que la longueur d'onde du bleu. Et donc, si je fais une image avec du bleu plutôt qu'avec du rouge, je vais pouvoir voir des choses plus petites.
Et le bleu et le rouge pénètrent à l'intérieur de notre peau, par exemple, de la même manière?
Alors non. C'est ce que Ludovic a justement un petit peu expliqué. Alors, parce qu'il peut y avoir de l'absorption, mais aussi d'autres phénomènes, comme la diffusion. Donc, effectivement, ça, c'est aussi lié à la longueur d'onde. Donc, un des enjeux de l'imagerie des tissus biologiques en optique, c'est que justement cette lumière, elle pénètre pas très profondément. Enfin, elle va pénétrer, mais elle va perdre, on dit, la mémoire du chemin, elle va changer de direction, etc. Et donc, c'est ce qui rend c'est ce qui rend compliqué le fait de pouvoir faire des images en profondeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un sujet très, très actif en recherche, réussir à faire des images optiques dans les tissus biologiques en profondeur.
Alors, quand vous dites elle rentre pas très profond ou très profond, on parle de quoi?
Alors, le bleu, quelques centaines de nanomètres, peut aller jusqu'à quelques centaines de micromètres dans le visible.
Alors, si on traduit ça en chiffres, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Un micromètre, c'est un millionième de mètre. C'est-à-dire qu'il faut mettre un million de nanomètres pour faire un millimètre. Bref, c'est tout petit en réalité.
Oui, pour le bleu, on ne va pas très profond.
Voilà.
C'est pour ça qu'on essaye de faire des imageries plutôt dans le rouge. Ben, si on arrive à atteindre, donc là, on peut faire des images jusqu'à quelques centaines de micromètres. Jusqu'au millimètre, on est en train de rêver. Voilà, le millimètre, c'est déjà pas mal.
Alors, ça, si on parle de notre peau, par exemple, si on regarde depuis l'extérieur, ça reste vraiment en surface. Mais ce sur quoi vous travaillez, ce sont par exemple des cellules elles-mêmes, dont la taille, là, on rentre dans le même ordre de taille, même grandeur que ce qu'on peut atteindre, c'est ça?
Alors les cellules, oui, elles font quelques micromètres, quelques dizaines de micromètres, et puis on essaye d'étudier des amas de cellules, donc des tissus biologiques composés de quelques couches de cellules, donc là où on est à des échelles compatibles. Voilà.
Jean-Michel Autoniel, d'entendre cette interaction entre la lumière et la matière vivante, est-ce que ça rajoute quelque chose par rapport à votre travail qui utilise, disons en ce moment, surtout du vert?
Dans le choix des couleurs en tant qu'artiste, c'est vrai qu'il y a des couleurs plus qui nous parlent, qui parlent au plus grand nombre, et donc c'est peut-être des histoires de perméabilité que je découvre aujourd'hui qui font qu'on est plus sensible au bleu qu'au rouge, par exemple, ou que c'est plus facile, par exemple, de faire du vert bleu que de faire du vert rouge. Ça, je ne sais pas, mais moi, ça m'intéresse ce rapport à la science en art. Je pense que souvent la recherche pure. En vous écoutant, je me dis que les artistes sont pas vraiment fous, en fin de compte, que vous êtes plus fous qu'eux, qu'il y a une folie de la science.
Tous les scientifiques le savent.
Oui, qui est assez étonnante pour un artiste. Et moi, j'ai déjà travaillé, par exemple, avec un mathématicien mexicain sur une théorie des reflets, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Ça m'a permis d'amplifier les reflets dans mon travail, de faire que les verres réfléchissants, par exemple, créent des combinatoires que je n'avais pas du tout pensé. C'est un travail qu'on a fait pendant 10 ans avec l'Université des mathématiques de Mexico, et c'était vraiment intéressant. Mais je pense qu'on s'est compris parce que à la fin, on avait, je pense qu'on a tous un discours qu'on pourrait presque qualifier de poétique.
Les ordres de grandeur des énergies impliquées dans ces phénomènes, Ludovic Julien, est-ce que certaines, j'imagine que certaines couleurs, certaines longueurs d'onde, parce que la longueur d'onde est liée à l'énergie, vont correspondre à certaines interactions moléculaires, et qu'une partie de votre travail, c'est justement de trouver les bonnes interactions avec les bonnes molécules.
Alors, en ce qui concerne effectivement cet aspect énergétique, une grandeur qui n'est pas très perçue de manière générale, donc il faut le voir par rapport à la cohésion des objets dont on parle. Donc, une molécule est constituée d'atomes, et ces atomes sont liés. L'ordre de grandeur de l'énergie qui est contenue dans la particule photon est de l'ordre de grandeur de l'énergie d'une liaison entre deux atomes, dans le visible en tout cas. Et du coup, c'est une grosse perturbation que d'absorber un photon, dans la mesure où on perturbe justement l'énergie de la liaison qui existait. Et du coup, on obtient un objet qui conserve, on va dire, sa cohésion, mais néanmoins dont les propriétés sont très très altérées. Et du coup, on va avoir justement des altérations qui donnent lieu ensuite à des modifications des molécules de manière générale. C'est une possibilité, ça peut être émettre de la lumière, de la fluorescence par exemple. Donc il y a beaucoup de possibilités de désexcitation. Et le choix de la longueur d'onde, effectivement, guide le type d'excitation et l'impact de l'excitation. Si on est plutôt du côté du violet, voire même plus bas, donc de l'ultraviolet, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, donc c'est une très grosse perturbation. Si on est plutôt de l'autre côté, donc plutôt du côté du rouge, voire même de l'infrarouge, ce sont des perturbations plus délicates, on va dire. Et là, il y a, quand il s'agit de piloter finalement le comportement de la matière, des choix à réaliser, mais qui sont instruits par les propriétés de la matière elle-même. Donc on n'est pas dans le brouillard quand il s'agit de faire un choix de la longueur d'onde, donc de la couleur, de la lumière qu'on applique sur le système.
Et avant de vous poser une question sur ce que vous essayez de faire peut-être un peu plus précisément avec un exemple, je vais juste préciser quelque chose qui est cette idée de visible. Vous venez de parler de lumière visible. Alors, la lumière visible, c'est celle que nos yeux perçoivent. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en gros. Et chaque, on peut aller d'un bout de l'arc-en-ciel à l'autre en étirant les ondes. La plus petite des ondes, c'est celle qui a le plus d'énergie, c'est le violet. Et plus on étire, toutes les lumières y passent jusqu'au rouge qui est de l'autre côté, qui est la plus grande. Ensuite, il y a les lumières qui sont invisibles des deux côtés. Dans l'énergétique, c'est ce que vous avez appelé les ultraviolets, et puis il y a les rayons X, les rayons gamma. Et de l'autre côté, dans les moins énergétiques, c'est l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio qui sont de l'autre côté. Mais tout ça, ça fait partie de la lumière. Et certaines d'entre elles, sur lesquelles vous travaillez, ont donc la bonne énergie pour interagir avec les molécules. Vous avez un exemple d'une propriété que vous recherchez dans vos travaux, ou est-ce que vous êtes au pif pour essayer de voir quel est l'impact d'une énergie sur quelque chose?
Alors, je n'agis jamais au pif.
Tout ça, c'est parce que vous m'avez parlé d'eau sale tout à l'heure.
C'est une belle vengeance. Non, là, en l'occurrence, on essaie d'être instruit au niveau du choix de la longueur d'onde, mais qui n'est qu'une propriété que nous recherchons. Il se trouve que dans notre activité, ce qui nous intéresse, ce sont précisément des molécules ou des systèmes moléculaires qui absorbent la lumière et qui la réémettent sous forme de fluorescence. C'est vraiment une propriété qui nous intéresse beaucoup. Mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des phares, simplement, qui absorbent et qui émettent. Nous, on veut que le système émette de la lumière, mais qu'il se transforme aussi. Et on exploite ces transformations, et en particulier la vitesse à laquelle ces transformations s'effectuent, pour essayer d'être capable de voir plein d'objets simultanément. On a une grande frustration à l'heure actuelle qui est que dans une cellule, on a de l'ordre de grandeur de 1 million à 10 millions de molécules distinctes. Donc c'est un très très grand nombre. Et à l'heure actuelle, on est limité à en observer moins de 10. S'il faut comprendre, un peu donner de l'intelligibilité au système, on aimerait voir beaucoup plus de choses. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des approches, des objets, qui permettent justement d'augmenter, alors je vais significativement, mais néanmoins de manière très faible, par rapport au nombre que j'ai donné, le nombre d'objets qu'on peut observer.
Eh bien, je vous propose, étant donné que ça correspond bien à ce que vous nous racontez, d'écouter « Rendez-nous la lumière » de Dominique A.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
Nous sommes toujours en direct avec mes trois invités, le sculpteur Jean-Michel Autoniel, la chercheuse en microscopie optique Alexandra Fragola et le chimiste Ludovic Julien et bien sûr le public du studio 181 de la Maison de la Radio.
France Inter, Big Bang, Christophe Galfard.
Alexandra Fragola, ça me fascine ce que vous faites et j'adorerais que vous nous expliquiez quels instruments vous êtes en train de développer justement pour aller regarder à l'intérieur des cellules peut-être ou de matières vivantes.
Alors en ce moment, on développe un microscope que l'on appelle microscope à feuilles de lumière. Donc l'idée, c'est d'arriver à regarder des objets 3D. Et donc en microscopie, quand on veut regarder un objet 3D, on peut être gêné par la lumière qui vient de l'ensemble de l'échantillon. Donc on veut faire ce qu'on appelle du sectionnement optique, c'est-à-dire regarder juste une fine tranche à l'intérieur, et ensuite on déplace cette tranche à l'intérieur pour reconstruire l'objet en 3D. Et donc l'idée, qui n'est pas la mienne, hein, mais qui est de mes collègues, c'est d'illuminer l'échantillon sur le côté avec une fine feuille de lumière, et de regarder donc à 90 degrés, enfin dans l'autre direction, Et donc, comme ça, on illumine juste une fine tranche. Donc, il faut mettre en forme cette lumière pour faire une nappe, une feuille de lumière, d'où le nom de la microscopie. Voilà. Et après, on l'éclaire à une couleur, avec une couleur qui correspond à l'échantillon. Donc ça dépend du travail de mon collègue Ludovic. En fonction des molécules qu'on veut regarder à l'intérieur de cet échantillon, on va choisir la bonne couleur qui va être absorbée par ces molécules. Donc si Ludovic a mis ce qu'on appelle des fluorophores, donc des molécules qui absorbent du bleu pour réémettre du vert, et bien je vais utiliser du bleu. Si Ludovic a mis des fluorophores qui absorbent du rouge, je vais l'illuminer avec du rouge.
En gros, vous mettez à l'intérieur de matière vivante, ça peut être une cellule, ça peut être autre chose, j'imagine, des molécules, des outils, des objets, disons, qui ont une particularité, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir réagir lorsqu'elles sont illuminées d'une certaine manière, c'est ça ?
C'est ça. Donc moi, je m'intéresse à la microscopie de fluorescence. Donc mes échantillons sont fluorescents, soit naturellement, soit on rajoute des fluorophores qui vont s'attacher à des zones d'intérêt, donc au noyau des neurones, aux membranes, aux molécules qu'on veut regarder. Et donc, oui, on va ensuite illuminer ces molécules avec la bonne couleur. Et nous, on va détecter la lumière émise par ces molécules pour faire une image.
Et l'image que vous récupérez, c'est celle de l'endroit où se trouvent ces objets que vous avez mis à l'intérieur, ou est-ce que ces objets illuminent aussi ce qui est autour d'eux et vous avez une vision globale en 3D de l'intérieur? Ou est-ce que vous ne voyez que les petites particules fluorescentes qui sont dedans?
Alors non, on voit les particules fluorescentes, donc c'est ça qu'on veut regarder.
Et grâce à ça, on peut faire des images du coup extrêmement précises, bien plus précises, j'imagine, que celles utilisées en échographie, ou pas du tout?
Oui, donc l'idée c'est d'avoir des images plus précises, c'est-à-dire plus résolues, où on peut voir des choses plus petites, parce qu'on utilise une longueur d'onde plus petite, donc la lumière. Voilà, et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de fabriquer des microscopes nouveaux, puisque c'est de la recherche, où on va pouvoir voir des choses petites, en profondeur, parce que, eh bien, en profondeur dans les échantillons, comme la lumière va être déviée à cause, justement, des hétérogénéités des tissus, eh bien, la trajectoire va être modifiée, donc on va corriger ça. C'est exactement la même chose que quand on regarde une étoile à travers l'atmosphère. Les rayons sont déviés par les différentes couches de l'atmosphère, mais c'est la même chose dans un échantillon biologique. Les rayons sont déviés quand ça traverse la matière. Et voilà, donc on essaye de corriger ces déformations.
J'adore cette idée, parce que ça, déjà, ça parle d'étoiles, donc ça, moi, j'aime bien. Et puis, en plus, vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte de perte de mémoire de la lumière. Et il y a quelque chose de très joli là-dedans, qui est que lorsque vous êtes au milieu du brouillard, il y a de la lumière. Il y a de la lumière absolument partout, ça peut être tout blanc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il y en a, mais on ne sait plus d'où elle vient. Elle a perdu la mémoire de l'endroit où elle est arrivée. On ne voit plus les objets, on ne voit que quelque chose de diffus. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un peu ce phénomène-là, quand on regarde les étoiles dans l'espace, c'est que, bon, une étoile, elle va briller, elle va envoyer de la lumière un petit peu partout. Dans le vide de l'univers, cette lumière, elle va tout droit, elle nous dit exactement où était l'étoile, où elle peut faire quelques petites montagnes russes autour de certains objets, mais en gros, elle va tout droit, et puis elle arrive dans l'atmosphère de la Terre, où là, à cause de l'air qui est autour de nous et des changements entre ce qui est au sol et ce qui est loin dans le ciel, eh ben, l'image va se mettre à être déviée et on va avoir des étoiles qui scintillent. D'ailleurs, ça me permet de rappeler à toutes et à tous, quand vous regardez le ciel, si vous voyez des choses qui scintillent, ce sont des étoiles, ce qui ne scintille pas, ce sont des planètes ou des satellites humains. Mais surtout des planètes parce qu'elles brillent beaucoup plus fort et du coup, elles ne scintillent pas. Ce scintillement, lorsqu'on essaie d'observer les étoiles, il est très très difficile ça ne nous permet pas de voir précisément les choses, c'est comme si c'était flou, c'est comme si toutes les choses étaient floues. On a trouvé une technique pour pallier à ce problème, et c'est une des techniques que vous utilisez vous aussi dans vos microscopes pour essayer de voir l'intérieur. Je crois que ça s'appelle l'optique adaptative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est?
Alors oui, effectivement, en astronomie, l'optique adaptative permet de corriger les déformations. Alors, j'utilise un mot technique, du front d'onde. Donc le front d'onde, je reprends l'image de votre vague. Le front d'onde, si on regarde la ligne de crête d'une vague, c'est le front d'onde. Et donc quand ce front d'onde se propage à la traversée de l'atmosphère, il va être déformé. C'est ce qu'on appelle des aberrations. Et donc ces aberrations font que si j'utilise cette lumière qui vient de l'étoile pour faire une image, je vais avoir une image qui va être dégradée, donc une image élargie de mon étoile, donc plus floue, ce que vous avez. C'est la même chose. Si je regarde les molécules de Ludovic à l'intérieur de mon échantillon biologique, la lumière qui est émise de ces, des molécules de Ludovic, mais de tes collègues aussi, hein, pas que celle de Ludovic, la lumière va être, le front d'onde de ce faisceau va être déformé en traversant les tissus biologiques. Et nous, on va utiliser les mêmes techniques d'optique adaptative pour remettre le front d'onde tout beau, comme s'il n'avait pas été perturbé, et faire une image plus résolue, où on voit plus de détails, donc on va déflouter l'image. Et pour ça, on utilise par exemple des miroirs déformables et, pour corriger ce front d'onde. Et donc tout le challenge pour nous, c'est d'aller mesurer ces aberrations pour ensuite donner la bonne forme au miroir et corriger le front d'onde.
Est-ce que, comme en astronomie par exemple, pour savoir comment le ciel déforme les choses, on crée une fausse étoile dans le ciel vous avez peut-être déjà vu des images de télescopes où il y a une sorte de laser qui part du télescope. Ce laser, il ne va pas du tout dans l'espace pour pointer des étoiles, c'est pour interagir avec la matière en haut du ciel qui crée une sorte de fausse étoile standard dont on connaît la luminosité, et quand on regarde comment cette luminosité arrive, on voit qu'elle est différente, et c'est grâce à ça qu'on change en temps réel les miroirs des télescopes pour avoir des images qui soient nettes. Vous faites la même chose ?
Exactement, donc cette étoile qui est créée, c'est ce qu'on appelle une étoile guide ou une étoile artificielle, et donc nous aussi on fait la même chose, on crée des étoiles artificielles dans nos échantillons, soit en mettant des molécules, soit en utilisant d'autres nanoparticules qui émettent de la lumière, donc c'est exactement pareil, on crée des étoiles guides à l'intérieur des échantillons pour mesurer les aberrations et venir corriger les fronts d'onde avec nos miroirs déformables. Ils sont plus petits, nos miroirs.
Et une image floue devient nette grâce à ça ?
Normalement, quand ça marche, oui.
Ça vous inspire un petit peu, ce genre de recherche aussi, Jean-Michel Autoniel ?
Je crois que ce sont des recherches qui ont inspiré les artistes depuis toujours. Quand on voit les écrits de Goethe sur le rapport lumière-couleur, par exemple, c'est très très proche de ces recherches, mais de façon plus intuitive. Et il y a beaucoup d'artistes, même on pourrait penser à Léonard de Vinci, qui se posait déjà ces questions de flou et d'étoiles. C'est des choses qui ont infusé dans la réflexion artistique au cours des siècles. Et moi, je dirais que je suis un peu le candide de cette histoire. Et donc, même dans mon travail, il y a une approche, je dirais, sensuelle, émotionnelle et intuitive de tout ça. Et c'est vrai que je rêverais qu'un texte soit écrit sur mon travail à travers cette vision scientifique, et justement voir qu'est-ce qu'on peut trouver de scientifique dans une œuvre en verre qui renvoie la lumière parce qu'il y a un miroir caché derrière, ou quand je crée des planètes artificielles comme celle qui était au Palais des Papes cet été, comment un scientifique peut m'éclairer. Voilà.
Vous voulez l'éclairer ? C'est marrant parce que vous fassiez référence à Goethe, parce qu'il a effectivement écrit un des premiers papiers sur la couleur de l'ombre, qui est un papier scientifique qui est assez, assez extraordinaire, et que j'avais bien aimé quand j'étais en thèse de doctorat. Moi aussi je l'avais lu. Je ne suis pas parti dans la même direction que vous derrière, mais ce sont des sujets qui sont absolument fascinants. Quelle est la prochaine étape pour ou ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment, Ludovic Julien, une molécule particulière ?
Actuellement, et je pense achever ma carrière dans ce contexte-là, j'essaie de dialoguer avec des organismes photosynthétiques. Donc la lumière, finalement, on a dit qu'elle est peu absorbée, mais il y a des exceptions. Et en particulier, les organismes photosynthétiques, donc les plantes, mais aussi les algues, ont développé au cours de l'évolution un système incroyable du point de vue de la chimie pour justement capter la lumière et l'utiliser pour réaliser les transformations dont j'ai parlé. Et ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est utiliser la lumière pour avoir une information sur l'état physiologique d'une plante. On est proche du petit prince qui interroge sa rose en lui demandant si elle a soif. C'est très proche. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser de la lumière. Alors, de la lumière modulée dans le temps, en termes de l'intensité en particulier, et elle répond. Elle répond en émettant de la fluorescence. On n'a pas l'habitude de voir les organismes photosynthétiques comme étant fluorescents, mais si vous les illuminez dans l'UV de nuit, eh bien vous allez avoir une couleur rouge très très intense pour tous les végétaux qui vous entourent. Et donc on essaie d'analyser la réponse dans le temps du signal de fluorescence endogène sous excitation bien choisie.
Endogène signifiant
que tout l'appareil qui mène à l'émission de fluorescence est contenu intrinsèquement dans l'organisme. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'introduire des perturbations par une lumière modulée dans le temps, non pas d'écouter, mais de regarder la fluorescence émise et sa manière de répondre dans le temps pour catégoriser les objets et dire « toi, tu as soif. Toi, il y a un gros insecte qui est en train de te faire mal. Toi, tu manques de fer. » Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, d'avoir des outils puissants de dialogue avec des organismes qui sont un peu limités habituellement pour parler.
Parce qu'ils n'ont juste pas de bouche que vous êtes en train de leur donner.
Ça va bien au-delà, je pense.
Et vous avez déjà des résultats par rapport à ce genre de recherche ?
Alors, on a déjà des résultats, en particulier donc, dans le laboratoire, à Aliénor Laloux, donc, qui a fait sa thèse au laboratoire et ensuite qui est chercheuse à l'heure actuelle, a mis en évidence qu'on peut catégoriser des organismes dans des états distincts en utilisant justement une excitation lumineuse et en analysant la réponse. Donc ce sont des choses, voilà, ongoing, on dirait en anglais, c'est-à-dire c'est en cours, on continue à travailler. Mais ce sont des choses intéressantes parce qu'on peut interroger même par voie satellitaire des organismes. Donc on a vraiment un outil très puissant d'interaction avec un monde qu'on n'a pas l'habitude finalement de matérialiser tant que ça, c'est-à-dire on voit les animaux bouger, ils sont vivants, on regarde moins les organismes photosynthétiques et pourtant on en dépend pour notre nourriture d'une manière incroyable. Donc là, il y a des enjeux assez importants en fait de réussir à améliorer tout ce qui va être consommation de l'eau, consommation des intrants, etc., en développant des outils de dialogue, justement.
Dans quelques instants, nous allons passer aux questions du public. Et en attendant, nous allons écouter Orange Country, un pays du soleil, de Bizarrap, Kara Jackson et Anushka Shankar.
That's the hardest thing. I'm not sure in a minute.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, le chimiste Ludovic Julien, la chercheuse en microscopie optique Alexandra Fragola et le sculpteur Jean-Michel Otoniel et bien sûr le public du studio 181 qui se prépare à poser ses questions.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Alors, tandis qu'on tend le micro à Alexis, je précise que je me suis trompé, c'était bien Orange County tout à l'heure, et non pas Country, le titre de la chanson. Alexis, on vous écoute.
Bonjour, je voulais savoir si on savait reproduire de façon artificielle, en laboratoire, la photosynthèse.
Alors, la réponse courte est non. La réponse longue, un peu plus longue, c'est que c'est quelque chose qui intéresse les chimistes depuis très longtemps, en fait. Alors, très longtemps, vous êtes jeune, mais disons, mon professeur lors de la thèse, qui est Jean-Marie Laine, donc prix Nobel 1986 de chimie, en fait, avait déjà commencé à travailler sur la photosynthèse artificielle dès les années, on va dire, 60-70. Ça commence à la période de la crise pétrolière. Et c'est quelque chose qui se poursuit, parce que, comme je l'ai dit, ce qu'a réussi à faire la nature par cette exploration aléatoire de l'évolution est très difficile à réaliser du point de vue des propriétés de la matière, justement. Donc, il y a des gens qui continuent, mais il y a des technologies alternatives, comme le photovoltaïque, qui sont d'autres manières d'extraire de l'énergie, de la lumière, et qui, à l'heure actuelle, je dirais, sont sans doute plus porteuse.
Nous avons une question de Laurence.
Oui, bonjour. Alors moi, j'avais une question pour Alexandra. Je voulais savoir si les recherches que vous menez ont des visées médicales. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye de faire mieux que les rayons X, que l'IRM, etc.
Alexandra Fragola.
Alors oui, on essaie toujours de faire mieux. Alors, les visées médicales, ma recherche à moi, les visées médicales sont un petit peu lointaines, c'est plutôt des visées en biologie, donc de comprendre des phénomènes biologiques. Mais évidemment, comprendre comment marche le cerveau, ça permet de comprendre ensuite ce qui ne marche pas dans le cerveau, donc c'est un peu fondamental. Mais oui, il y a des visées médicales. Et après, de façon générale, améliorer l'imagerie dans les tissus biologiques. L'idée, c'est de pouvoir détecter des anomalies très tôt, donc de faire des diagnostics très précoces. Donc, ce n'est pas moi personnellement, mais de façon générale, l'imagerie optique en biologie. Oui.
Nous avons une question de Cécile.
Oui, bonjour. Moi, je suis plutôt branchée histoire et je me demandais depuis quand est-ce qu'on avait conscience de tout ce spectre, de toutes ces longueurs d'onde et de leurs applications différentes.
Alors, je vais me permettre de répondre, moi, à cette question. Il y a quelques siècles, on connaissait déjà la lumière visible, et Newton nous a montré, c'est cette expérience que tout le monde a déjà vue, que dans un prisme, la lumière blanche du soleil devient plein de lumières différentes. Alors, l'idée de longueur d'onde était encore loin, mais on avait une idée de ce qu'était l'arc-en-ciel, en gros, que c'était des couleurs. Et quelques années plus tard, la mode en science était devenue d'essayer de comprendre si, par hasard, les différentes couleurs n'auraient pas des propriétés qui permettraient de soigner des maladies en médecine. Alors, tant qu'on n'a pas vérifié, c'est une bonne question. Et un des scientifiques extrêmement connus de la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Herschel, qui avait découvert la planète Uranus, donc c'était une superstar, s'est attelé à ce projet, à ce problème, et a essayé de découvrir quelles étaient les propriétés des couleurs. Il en a cherché une en particulier, qui est la température. Du coup, il a créé un arc-en-ciel sur sa table, avec un rayon de soleil et un prisme, et il a vérifié quelle était la température de chaque couleur. Il a vu qu'effectivement, c'était différent. Mais il a aussi réalisé qu'en allant au-delà du rouge, la température continuait à augmenter. C'est-à-dire dans le noir, au-delà de l'arc-en-ciel, il a vu qu'il y avait une lumière qu'on ne voyait pas. Donc là, on a découvert qu'il existait des lumières invisibles. Et ensuite, les années passant, la théorie est venue. On a découvert de l'autre côté qu'il y avait les ultraviolets. Et il y a un scientifique qui s'appelle Maxwell, un scientifique écossais, qui a mis tout ça en équation et qui a montré que la lumière était une onde avec une longueur d'onde qui ne s'arrêtait pas nécessairement au visible. Vous voulez rajouter quelque chose ?
C'est très bien.
Ça vous va ? Nous avons une question d'Erwan.
Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il est possible de créer un objet qui pourrait s'allumer, s'éteindre, voire devenir transparent en fonction de la longueur d'onde.
Ludovic, peut-être ?
Oui. Alors, la réponse est oui. On sait faire de l'ingénierie moléculaire pour ce genre de fonction. Et en particulier, un objet merveilleux qui a été identifié par des chimistes, des physiciens et des biologistes, ce sont ce qu'on appelle les protéines fluorescentes. Ce sont des objets à l'origine qui sont dans des organismes, en particulier marins, qui font que les méduses, en particulier certaines méduses, émettent de la fluorescence lorsqu'elles sont illuminées. Il y a eu un prix Nobel dans les années 90 portant sur cet objet. Et cet objet, à l'origine, c'est simplement une molécule qui absorbe la lumière, typiquement dans le bleu, et qui émet de la lumière verte. Et par modification au niveau du génome, à travers donc ce qu'on appelle de l'évolution dirigée, les biologistes ont réussi à obtenir des propriétés qui n'existaient pas dans la molécule de départ, et en particulier une des propriétés qui est absolument incroyable, c'est la possibilité d'avoir, quand on illumine par exemple dans la couleur qu'on appelle le cyan, qui est vers 480 nanomètres, donc quelque chose qui est entre le bleu et le vert, on va dire, de rendre une molécule qui brille totalement sombre. Elle n'émet plus rien. Et quand on l'illumine dans l'ultraviolet, elle récupère sa couleur, sa lumière. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en tant que chimiste, et que cet objet-là fait d'une manière assez miraculeuse, je dois dire. Et c'est très utilisé dans des microscopies très puissantes, qu'on appelle les microscopies super résolues, c'est-à-dire au-delà de finalement ce dont tu as parlé, la capacité, en utilisant ces propriétés combinées à des approches astucieuses et à des instruments puissants de physiciens, de gagner encore en résolution. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller à la résolution de la microscopie électronique, pratiquement.
Alors la microscopie électronique, c'est celle qui nous fait voir des choses de la taille des atomes, carrément.
Tout à fait. Alors, je sais pas, vas-y Alexandra,
oui, peut-être. Alors, effectivement, en utilisant ces molécules que l'on dit photoswitchables, on peut maintenant faire de la microscopie super résolue, et donc on est vraiment à l'échelle de quelques nanomètres, voire moins pour certaines équipes. Donc ça, c'est le prix Nobel de chimie en 2014. Donc maintenant, voilà, on peut voir des molécules uniques à l'échelle de quelques nanomètres.
Nanomètre, je rappelle, c'est un milliardième de mètre, pour ceux qui auraient perdu le fil des détails. On arrive au moment du petit quiz, la devinette sonore, où je vais vous faire écouter un son. Alors je sais qu'il y en a, je ne vais pas dire un ou une parmi vous, mais si, un ou une parmi vous qui va se reconnaître dans ce son. Et vous allez essayer de deviner ce que c'est. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alexandra Fragola en particulier.
Évidemment.
Alors c'est quoi ce qu'on entend?
Eh bien, c'est le sabre laser.
Absolument.
Mais parce que vous savez, je vous avais dit que j'étais fan de Star Wars et que c'est peut-être pour ça que j'ai fait de l'optique.
Exactement. C'est ce que vous m'avez dit en tout cas.
C'est sûr.
Ça a donné envie de faire de l'optique. Mais il y a un problème lorsqu'on fait de l'optique. C'est qu'un sabre laser, c'est de la lumière.
C'est ça.
Mais la lumière,
elle
ne s'arrête pas. Et est-ce que ça fait du bruit, la lumière?
Oui, alors quand ça vient brûler un objet...
Oui, mais la lumière
peut,
elle-même.
Mais non,
un laser, il ne fait pas de bruit lui-même.
Alors cela dit, le photoacoustique est une méthode où une fois qu'une molécule a absorbé la lumière, en fait, on a une dilatation de l'environnement par le fait qu'on émet de la chaleur dans le milieu. Et en fait, on a un son. Et c'est le son qui est utilisé pour réaliser de l'imagerie. Donc il y a quand même la possibilité de combiner lumière
vous trichez.
Et son. Bien sûr, je triche. J'ai le droit.
Et d'ailleurs, il y a un petit peu de triche peut-être aussi dans le son des sabres laser de Star Wars. Et pour nous expliquer d'où vient ce son, j'ai demandé à Patrice Giraud, qui est directeur des expositions Starfix Museum et qui est un des plus grands spécialistes de Star Wars, de nous expliquer d'où vient ce son qu'on vient d'entendre.
La personne qui a fait les sons de Star Wars s'appelle Ben Burtt. Et George Lucas, en 75, est allé voir son ancien professeur à USC, University of South California, où il a fait ses études de cinéma, pour trouver un jeune étudiant qui pourrait faire les sons de Star Wars. Et un de ses profs a dit ah, « Regarde ce petit jeune, il est génial, il est très talentueux ». Donc Lucas l'a sorti de l'université, l'a embauché, et pendant un an et demi, il lui a dit « Collecte des sons et fais-moi la bande-son des effets sonores de Star Wars, parce que mon univers va être entièrement créé. Lucas lui a montré des peintures de pré-production pour qu'il comprenne, et donc il a vu tout de suite ces sabres laser, ces sabres lumineux, et tout de suite Ben Burtt a eu la vision sonore à quel son ça devait correspondre. Et donc, il a essayé de collecter des sons qu'il allait pouvoir modifier. Et en fait, dans les sabres laser, il y a deux sons principaux. Il a remarqué que le projecteur de film faisait une espèce de cliquetis. Donc, il a enregistré ce bruit-là. Et l'autre bruit qu'il a mixé avec, c'est le vombrissement du tube cathodique de sa télé. Et donc, en prenant ces deux sons qu'il a un peu trafiqués, ralentis, en mettant de l'écho, ça a généré ce son qu'on connaît du sabre laser.
Et comment est-ce qu'on a obtenu le voum, voum, voum ?
Alors, le fameux voum, voum, comme vous dites, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et c'est là où Ben Burtt est vraiment un mec absolument génial. Il s'est dit, mais comment je peux effectivement recréer le sabre qui traverse l'air ? Et donc, il a pris un micro long qu'il a mis devant une enceinte. Et tout simplement, Ben Burtt se projetait les images du film de combat au sabre laser. Et en fonction que les sabres bougent, et ben il bougeait son micro devant l'enceinte, comme une épée devant une enceinte. Et ça fait l'effet Doppler qui a généré le bruit du sabre laser. Voilà.
L'effet Doppler, ça nous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure sur les longueurs d'onde de la lumière. C'est que lorsque vous avez une vague à la surface de l'océan, disons que ça va faire un certain son. Le son est une vague aussi dans l'air. Et si on ratatine les ondes, ça va faire un son plus aigu. Et si on les écarte, ça va faire un son plus grave. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous avez une voiture ou une ambulance qui passe à côté de vous dans la rue, ça fait zoom. Du coup, Ben Burtt, en bougeant son micro devant les enceintes, a créé ce son du sabre laser. Vous voyez, Jean-Michel Otoniel, Star Wars a donné envie à Alexandra Fragola de faire de l'optique, donc votre travail va probablement aussi impacter des gens.
Mais j'espère que l'art ouvre des possibles qui sont hors de sa limite, donc c'est ça qui est formidable. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette notion du temps dans la recherche. Je pense qu'on a ça en commun avec les chercheurs, c'est cette idée que le temps n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on se lance dans des projets qui peuvent durer des années pour un moment comme ça de miracle qui apparaît et qu'on essaye de transmettre. Ouais.
Ouais, mais c'est ce qui est beau à la fois dans la recherche et dans l'art, c'est qu'en plus on n'a aucune idée de ce qu'on trouvera au final de tout ça. Le temps passe, vous venez d'en parler, et il est plus court à la radio que dans la recherche. Donc c'était Big Bang qui touche déjà à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Patrice Giraud pour l'explication du bruit des sabres laser de Star Wars. Merci Jean-Michel Otoniel. Votre prochaine exposition aura lieu en avril à la Villa Empin, Fondation Bogossian à Bruxelles. Et c'est une première pour la Belgique. Alexandra Fragola, Ludovic Julien, merci pour vos lumières à tous les deux. Et merci au public du studio 181 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Raphaël Rousseau, à la vidéo Gaspard Guy Bourget et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour deux émissions, une sur l'énergie noire et une autre qui sera un combat entre araignées et guêpes. La billetterie vient d'ouvrir et vous pouvez réserver vos places sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. Et comme c'est long une semaine, vous pouvez évidemment retrouver toutes les émissions Big Bang en podcast sur l'application Radio France et toutes les plateformes de streaming.